Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, le marché pétrolier pourrait entrer dans une zone rouge avec une pénurie d'offres en juillet ou en août, en l'absence d'issue durable au conflit au Moyen-Orient, a alerté le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie. Israël a annoncé avoir expulsé tous les militants étrangers de la flottille pour Gaza capturés en mer au lendemain du tollé international provoqué par une vidéo les montrant se faire humilier en détention. Et enfin, la Cour d'appel de Paris a déclaré ce jeudi Air France et Airbus coupables d'homicide involontaire dans le crash du vol Rio-Paris en 2009, les déclarant seuls et entièrement responsables de l'accident le plus meurtrier de l'aviation française. Et on débute ce rendez-vous d'information par l'actualité au Moyen-Orient. Les efforts s'intensifient pour mettre fin à la guerre entre les États-Unis et l'Iran, avec la visite à Téhéran d'un nouveau haut responsable du Pakistan, médiateur des discussions. Elle intervient alors que Donald Trump a averti hier que la situation était sur le fil entre un accord et une reprise des hostilités. Et un responsable des Émirats arabes unis a qualifié de chimère le projet iranien de contrôle du détroit d'Ormuz qui couvre une zone allant jusqu'aux eaux du sud du stratégique port émirati de Fujairah. Et le marché pétrolier pourrait entrer dans une zone rouge avec une pénurie d'offres en juillet ou en août en l'absence d'issue durable au conflit au Moyen-Orient, a alerté le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie. Et la réponse du gouvernement français à la crise énergétique et à la guerre au Moyen-Orient a jusqu'ici été appropriée et doit rester limitée, temporaire et ciblée, a estimé le Fonds monétaire international avant l'annonce de nouvelles aides. Situation au Liban maintenant. Le pays est en situation de péril, a annoncé ce matin Jean-Yves Le Drian, l'envoyé spécial du président français pour le Liban, tout en saluant la poursuite des discussions qui offrent une perspective, selon ses mots, de sortie du conflit entre Israël et le Hezbollah pro-iranien. En Israël maintenant, le gouvernement a annoncé avoir expulsé tous les militants étrangers de la flottille pour Gaza capturés en mer au lendemain du tollé international provoqué par une vidéo diffusée par le ministre israélien de la Sécurité nationale qui est d'extrême droite, les montrant se faire humilier en détention. L'Italie, l'Irlande et l'Espagne ont appelé l'Union européenne à sanctionner ce ministre. Dans le reste de l'actualité, au Maroc, au moins 4 personnes sont décédées dans l'effondrement d'un immeuble du pays, selon un bilan provisoire des autorités locales qui poursuivent leurs opérations à la recherche d'éventuelles autres victimes coincées sous les décombres. Dans un tout autre volet, les autorités françaises et portugaises recherchent activement ce jeudi la mère de 2 garçons âgés de 3 et 5 ans, retrouvés seuls mardi soir au bord d'une route dans le sud du Portugal, une dizaine de jours après leur disparition dans l'est de la France. Et nous l'avons évoqué dans les titres, la Cour d'appel de Paris a déclaré Air France et Airbus coupables d'homicide involontaire dans le crash du vol Rio-Paris en 2009, les déclarant seuls et entièrement responsables de l'accident le plus meurtrier de l'aviation française. Airbus va se pourvoir en cassation, tandis que pour les parties civiles, une page s'est tournée. En Seine-Saint-Denis, maintenant, des centaines d'enseignants, de personnels et de parents d'élèves et d'élus ont sonné l'alarme lors de grèves et de manifestations contre les 145 fermetures nettes de classes prévues dans les écoles du département, le plus jeune et le plus pauvre de l'Hexagone. Et enfin, de fortes chaleurs vont s'installer sur le pays dans les prochains jours, avec des températures passant les 30 degrés ce jeudi, atteignant les 36 degrés ce vendredi dans le sud-ouest, sans que l'on puisse parler de canicule, selon Météo France. C'était votre rendez-vous d'information. Merci pour votre attention. À suivre les dossiers du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. Premier dossier, les efforts se sont multipliés aujourd'hui pour trouver une issue pacifique au conflit entre l'Iran et les États-Unis. Au cœur des négociations, un acteur, le Pakistan. Ces derniers jours, son premier ministre s'est rendu en Iran à 2 reprises. Cela alors que la tension remonte. Donald Trump a averti hier que la situation était sur le fil. On fait le point avec vous, Marc-Aurel Barrez.
Oui, aujourd'hui, c'est le chef de l'armée pakistanaise qui s'est rendu à Téhéran. Objectif objectif poursuivre les discussions avec les responsables iraniens. L'Iran a reçu une nouvelle proposition américaine et dit l'étudier. En attendant, la République islamique réitère ses exigences, dégel des avoirs bloqués à l'étranger, fin du blocus américain des ports iraniens. Et dernière nouvelle aujourd'hui, d'après Reuters, le guide suprême iranien a interdit le transfert de l'uranium enrichi à l'étranger. C'est une des principales exigences de Washington. En bref, pas de grande percée dans les négociations pour l'instant. C'est même plutôt l'inverse. Les discussions piétinent et se tendent. Les gardiens de la révolution ont menacé d'étendre la guerre bien au-delà de la région. Cela en cas d'attaque américaine. Donald Trump s'est dit prêt à agir, faute, je cite, de bonnes réponses.
Et dans ce contexte, Donald Trump et le Premier ministre israélien ont des objectifs divergents.
Oui, selon CNN et CBS, les deux hommes auraient eu un entretien tendu mardi. Selon ces deux médias, Donald Trump aurait dit « Benjamin Netanyahou fera ce que je veux qu'il fasse ». Alors, quelles sont les divergences? Washington veut une solution diplomatique, alors qu'Israël souhaiterait la reprise des combats, en tout cas d'après Dani Citrinovis, chercheur à l'université de Tel Aviv, repris par l'AFP. Pour lui, la perspective d'un accord de paix serait même un scénario cauchemardesque pour le Premier ministre israélien. Toujours selon cet expert, ce que cherche Israël, c'est d'abord à renverser la République islamique. Washington, de son côté, souhaiterait empêcher l'Iran d'accéder au nucléaire et serait prêt à trouver un compromis. Enfin, notons aussi que la guerre est devenue très impopulaire aux États-Unis. Washington cherche donc une issue.
Merci beaucoup Marc-Aurel Barrez pour toutes ces précisions. Second dossier en visite à Rabat, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est revenu hier sur les relations franco-marocaines. Il a notamment loué deux projets pour renforcer ses liens, la visite de Mohamed VI en France et la signature d'un traité bilatéral. On l'écoute.
Ma présence aujourd'hui nous a aussi permis de préparer l'agenda du partenariat bilatéral franco-marocain. Il le fallait bien car cet agenda va être très dense dans les prochaines semaines et les prochains mois. Nous nous retrouverons en effet prochainement à Rabat pour notre 15e séminaire intergouvernemental, la réunion de haut niveau. Elle nous permettra de faire un point d'étape du partenariat d'exception renforcé, notamment pour ce qui concerne les coopérations entre nos administrations. Et nous nous préparons aussi à accueillir Sa Majesté en visite d'État en France, ce qui sera un jalon historique pour les relations franco-marocaines. Je voulais revenir sur quelques points qui me semblent à cet égard essentiels. D'abord, beaucoup a été fait depuis la visite d'État de l'automne 2024. Les chefs d'État avaient fixé une feuille de route claire et ambitieuse. Nous l'avons mise en œuvre en veillant à faire grandir encore l'élan qui entoure notre partenariat. Aujourd'hui, je veux vous dire que tous les moteurs de la relation franco-marocaine tournent à plein régime. Nous avons réactivé un potentiel commun et des réflexes franco-marocains. Nos entreprises, nos administrations, nos scènes culturelles et artistiques, en fait nos deux peuples, se connaissent bien depuis longtemps et vont facilement l'un vers l'autre. C'est peut-être une évidence, mais je veux le rappeler et dire que ces liens à nul autre pareil sont pour nous un atout extraordinaire.
Et la question du Sahara a également été abordée par le ministre français des Affaires étrangères. Il a réaffirmé la position officielle de Paris. Le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Ce sont ses mots. On l'écoute.
Je veux revenir sur la question du Sahara, que je sais existentielle pour le Maroc, mais qui est aussi stratégique pour la France et pour la région. Vous connaissez la position de la France, comme l'a écrit le président de la République à Sa Majesté le Roi. Le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et le plan d'autonomie proposé par le Maroc est la seule base d'une solution politique, juste, durable et négociée. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa résolution 2797, s'est inscrit dans cette logique. Ne peut que saluer cette dynamique positive, ainsi que la reprise de discussions directes entre toutes les parties prenantes sur la base de ce plan d'autonomie. J'émets le souhait qu'elle puisse aboutir rapidement, car ce conflit n'a que trop duré. Dans l'attente de ce règlement définitif que nous appelons de nos voeux, la France reste à l'initiative. Nous n'attendons pas pour soutenir les importants efforts entrepris par le Maroc pour développer ces régions et agir au bénéfice des populations qui y résident. Comme je l'avais annoncé en 2024, nous avons désormais accru notre présence consulaire et nos activités culturelles avec l'ouverture d'un centre de dépôt des demandes de visa et la création d'une alliance française à l'AIEU. Nous venons d'y inaugurer une nouvelle école. Nos entreprises y investissent. L'Agence française de développement et nos opérateurs les accompagnent. Et cela ne fait que commencer.
Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères. Dernier dossier, l'Union européenne n'est pas parvenue aujourd'hui à approuver une vaste réforme de sa politique migratoire. Elle autoriserait la création de centres pour migrants en dehors de son territoire. Les États membres et le Parlement européen ont décidé de repousser au 1er juin les discussions. Ces hubs de retour sont vivement plébiscités par plusieurs pays européens comme le Danemark, l'Autriche et l'Allemagne. Parmi les pistes envisagées, le Rwanda, l'Ouganda ou encore l'Ouzbékistan. Fabienne Keller, députée européenne Renew et questeure du Parlement européen, est vivement opposée à cette réforme.
L'alternative, c'est la mise en œuvre du pacte que nous avons voté il y a 2 ans déjà, un ensemble de mesures directement applicables, donc les mêmes pour les différents États membres, et qui prévoit des procédures accélérées aux frontières pour les migrants ayant peu de chances de pouvoir rester sur le territoire. Donc l'idée, c'est de pouvoir traiter vite et mieux, de manière, y compris la demande d'asile, mais aussi le retour des personnes, de manière maîtrisée, sereinement et dans le respect du droit des personnes. Les hubs tels qu'ils sont présentés aujourd'hui, c'est une manière de renvoyer à un pays tiers qui n'est même pas le pays d'origine de la personne. C'est une fausse solution, car la personne ne restera pas durablement dans ce pays qu'elle ne connaît pas du tout.
Quels seraient ses droits, d'ailleurs, à cette personne dans le pays ? Cette personne dépendrait de la législation du pays dans laquelle elle serait, comme le Rwanda, l'Ouganda ou encore l'Ouzbékistan ?
C'est cela. C'est pour cela que je m'oppose. Parce que nous sommes incapables d'assurer la protection des droits des personnes, puisqu'elles seront présentes dans un autre pays du monde. Et pire encore, on peut être amené à renvoyer vers un pays où justement ce qui a conduit la personne à fuir son pays d'origine est également pourchassé, enfin est également un motif de persécution. Par exemple, une personne LGBT qui fuit son pays où c'est criminalisé pourrait être renvoyée vers un pays où c'est également le cas. Donc c'est quelque chose qui ne respecte absolument pas les droits fondamentaux. Je ne comprends pas pourquoi cette fausse solution a été proposée, puisqu'elle est fondamentalement instable. Une personne qui est renvoyée vers un pays qu'elle ne connaît pas, dont elle ne maîtrise pas la langue, avec laquelle elle n'a aucun lien, n'a pas aucune raison d'y rester durablement. C'est une mauvaise réponse à un vrai sujet qui est comment gérer plus efficacement les retours pour les personnes qui ne respectent pas les critères de maintien dans l'Union européenne.
Fabienne Keller, députée européenne Renew et questeure du Parlement européen, au micro de François-Xavier de Calonne. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.